RCF.
Je pense, donc j'agis, le Presse Club. Melchior Gormand, Étienne Pépin.
Bonjour à tous, dernière journée avant de finir la semaine. Vous le savez, Je pense, donc j'agis se met en mode week-end. À 10h, on retrouvera une émission de jardinage, on va agir pour la terre. Mais tout de suite, c'est le Presse Club, une heure pour échanger avec nos confrères journalistes sur des sujets qui font de l'actualité la semaine. Et une heure, bien sûr, pour vous écouter, car vous avez toujours et encore la parole. Bonjour Étienne Pépin.
Bonjour Melchior, bonjour à tous.
Au sommaire de ce Presse Club, on va bien sûr parler de la présidentielle avec ses derniers rebondissements.
Tous deux estiment être les seuls à pouvoir battre Emmanuel Macron. Éric Ciotti et Valérie Pécresse sont qualifiés pour le second tour de la primaire des Républicains. Xavier Bertrand, l'un des favoris du scrutin, ne termine que quatrième. Et Zemmour dans tout cela, on en parle dans cette émission.
On fera un point également sur la crise sanitaire et le menaçant variant Omicron.
Le Covid-19 qui inquiète à la fois la France et l'Europe. Un nouveau conseil de défense sanitaire doit se tenir lundi. C'est une annonce de Jean Castex hier soir pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires. Le variant Omicron est arrivé en France. L'obligation vaccinale fait son chemin dans les esprits européens.
Nous parlerons aussi de l'actualité de l'Église, Étienne.
Il aura fallu moins d'une semaine pour que le pape prenne sa décision. François accepte la démission de Monseigneur Michel Aupetit. L'archevêque de Paris était dans la tourmente après les révélations concernant sa gestion de l'archidiocèse et sa supposée liaison avec une femme.
Et vous pouvez venir partager toutes vos questions et réflexions pendant l'émission. On prendra le temps de vous lire, de vous écouter au 04 72 38 20 23, par mail également à l'adresse direct@rcf.fr et dans notre groupe Facebook Je pense, donc j'agis.
Je pense, donc j'agis. Le Presse Club, Melchior Gormand, Étienne Pépin.
Avec deux invités pour ce Presse Club.
Séverin Husson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef à La Croix, c'est la première fois que vous participez à ce Presse Club, soyez le bienvenu. Stéphane Vernet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur délégué de Ouest France à Paris, bienvenue à vous aussi.
Ah ben Stéphane Vernet qui a l'habitude de participer au Presse Club. On va commencer Étienne en parlant de la présidentielle, il y a eu des rebondissements cette semaine.
Ce sera donc un duel entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse, tous deux se sont qualifiés pour le second tour de la primaire des Républicains. Le député des Alpes-Maritimes arrive en tête avec 25,60% des voix devant la présidente de la région Île-de-France et ses 25%. Michel Barnier est troisième, suivi de Xavier Bertrand, puis Philippe Juvin. La surprise, c'est l'échec de Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, ne termine que quatrième. L'ancien ministre voulait pourtant éviter la primaire. Nous allons essayer d'analyser cela avec nos invités. Est-ce que ça vous étonne finalement? Est-ce que vous êtes surpris par ce résultat, Stéphane Vernet? Xavier Bertrand, quatrième position, lui qui se voyait déjà au second tour de la présidentielle. Non,
Moi personnellement je suis pas surpris parce que j'ai suivi la campagne sur le terrain auprès des militants et puis j'ai assisté aux quatre très longs débats télévisés et donc l'issue se dessinait depuis un petit moment déjà en fait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous l'avez très bien dit, Xavier Bertrand voulait éviter une primaire, mais il n'était pas le seul, c'est-à-dire qu'il avait le soutien d'une partie de l'appareil, de la direction des Républicains, qui avait un très mauvais souvenir de la primaire de 2017, et donc pendant un moment, le parti a voulu tout faire pour éviter l'organisation d'une primaire, et puis pour faire en sorte que le candidat naturel, alors au début ça devait être François Baroin, mais il voulait pas, donc après le choix s'est porté sur Xavier Bertrand et en fait le parti a tergiversé très longtemps, a perdu énormément de temps pour essayer d'éviter une primaire et de faire en sorte que Xavier Bertrand puisse revenir dans sa famille et se présenter. À l'arrivée en fait les Républicains se sont décidés très tard et ils organisent une primaire dite fermée. Vous n'avez que 139 000 et des poussières personnes qui ont pu voter. Or toute la question c'est à qui est-ce qu'on demande de faire le choix? Et on demande à des adhérents de longue date, des gens qui se sont inscrits à la dernière minute pour soutenir tel ou tel candidat. Et donc, si vous voulez, le résultat, il était lié à la fois à l'attitude qu'a eu Xavier Bertrand par rapport à sa propre famille et à ses militants pendant longtemps. Je vous rappelle que c'est quand même quelqu'un qui était parti avec perte et fracas quand Laurent Wauquiez a été désigné président des Républicains en disant « je ne veux pas de ce parti, ça n'est pas ma droite ». Ensuite, il a dit qu'il se présentait tout seul et qu'il qui ne se soumettrait en aucun cas à une primaire ou à un exercice qui consisterait à désigner un candidat et qu'il allait tracer son chemin. Et puis il revient parce qu'en fait il a besoin des militants et de l'argent du parti, il n'avait pas le choix. Et puis il dit qu'il reprendra pas sa carte aux Républicains, et puis il la reprend, et puis après il appelle ses soutiens à reprendre leur carte aux Républicains pour pouvoir voter dans le cadre de la primaire. En fait, c'est tous ces revirements-là. Les gens qui ont voté cette semaine, eux, ils s'en souviennent, ils les ont suivis, ils les connaissent, et je pense qu'ils ne lui ont pas pardonné.
Séverin Husson, est-ce que Xavier Bertrand a perdu sur son arrogance ?
Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec Stéphane. C'est quand même une surprise. Moi, j'ai suivi aussi les quatre débats, mais c'est vrai que la qualification d'Éric Ciotti au second tour, elle est quand même surprenante, même si on sentait, il se disait dans les derniers jours de la campagne que Éric Ciotti était en train de monter. Mais voilà, c'est quand même une qualification surprenante. Il a fait, c'est vrai, une bonne campagne. Il a fait des bons débats. Il est apparu comme plutôt sympathique dans les débats et combatif. Il a fait une bonne campagne. Il était clair. Il a tenu sa ligne, contrairement effectivement à Xavier Bertrand. Qui, alors je ne sais pas si c'est une forme d'arrogance qu'il paye. Par contre, je partage l'analyse de Stéphane sur l'échec de Xavier Bertrand. Je ne sais pas si c'est l'arrogance. En tout cas, c'est cette tergiversation à la fois vis-à-vis du parti, vis-à-vis des Français. Il avait quand même construit sa campagne en disant « je veux nouer une relation en direct avec les Français ». Et finalement, il a opéré un revirement en acceptant la primaire fermée, en plus, qui lui a sans doute desservi si ça avait été une primaire ouverte. Sans doute que son côté peut-être plus rassembleur que certains autres candidats LR lui aurait permis de faire un meilleur score. Voilà. Donc je ne sais pas si c'est son arrogance. En tout cas, ce sont ses revirements qu'il paye.
Est-ce qu'il n'y a pas un risque à ce qu'il se présente malgré tout à la présidentielle, qu'il aille chercher les 500 parrainages indépendamment de ce vote, de ce résultat de la primaire des Républicains, Stéphane Vernet?
Xavier Bertrand?
Oui.
Non, aucune chance. Pour moi, c'est pas possible, parce qu'encore une fois, s'il s'est inscrit dans ce process alors qu'il avait dit qu'il s'inscrirait pas dans cette démarche, c'est aussi parce qu'il a besoin de fonds, il a besoin d'argent. Donc,
puisqu'il dit quelque chose et puis après il dit l'inverse, est-ce qu'on pourrait pas imaginer qu'il ait envie d'y aller quand même?
Non, je pense que c'est trop tard. Puis là, il a clairement pris position en faveur de Valérie Pécresse. Il a dit qu'il soutiendrait la campagne de celui ou celle qui gagnera samedi. Non, moi je pense que là, il y a une fin à tout, y compris dans les revirements. Là, je pense que il a tiré un trait sur c'est raté. Simplement.
Oui, je suis d'accord. C'est et c'est là où on voit que la politique est quand même extrêmement violente. C'est quelqu'un qui prépare cette échéance depuis 10 ans et tout s'est effondré en une journée. Donc effectivement, difficile de l'imaginer se relancer hors d'un parti. Alors qu'il a justement fait le choix de rallier la primaire et LR.
Bon, en tout cas, Stéphane Vernet.
Si je peux me permettre, allez-y. Par rapport aux surprises et aux aspects inattendus de ce résultat, moi je peux vous dire qu'en septembre, c'est sur Michel Barnier que j'aurais mis un billet. Parce qu'auprès des militants, il était très populaire. Et il se trouve que les débats télévisés lui ont fait beaucoup de tort. Il a été très mauvais dans cette campagne. Et quelqu'un qui avait un a priori positif auprès des militants au départ, s'est trouvé naturellement déclassé parce qu'il a été mauvais. Éric Ciotti, lui, est apparu comme clair, sincère, loyal, etc. Mais pourquoi ? Juste si vous me permettez, Étienne, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'encore une fois, on a affaire à un électorat qui est très restreint et qui est très particulier. Les militants ont une perception, une vision des choses très marquée, très à droite. En tout cas, les candidats ont tous compris que pour gagner la primaire, cette primaire-là, il fallait s'adresser à cet électorat particulier. C'est aussi pour ça qu'on a assisté à une surenchère de propositions très droitières sur l'immigration, sur des propos très forts sur l'autorité, des choses comme ça. Et en fait, Éric Ciotti est apparu le plus à l'aise dans ces débats-là et sur ce registre-là parce que c'est le plus convaincu en la matière. Lui, il n'a pas eu besoin de se forcer ou de surjouer. Et c'est ce qui fait qu'il arrive en tête du résultat. Et encore une fois, je pense que quand vous suiviez, si vous suiviez la séquence dans le détail, ça s'est apparu assez rapidement, en fait.
Mais alors, est-ce que justement, cette campagne très à droite va pas porter préjudice aux Républicains, puisque finalement, si on regarde les choses d'un peu loin, on a Marine Le Pen, Éric Zemmour et donc l'un des deux, là, Éric Ciotti ou Valérie Pécresse, tout cela se tient dans un mouchoir de poche quand même. Les idées se sont assez proches les uns des autres là. Est-ce qu'on n'a pas un risque de d'idées à droite trop précises ou trop proches les unes des autres là, c'est vrai, ils sont.
Moi, il me semble que la configuration sera quand même un peu différente selon que se qualifie Éric Ciotti ou Valérie Pécresse. Si c'est Éric Ciotti, c'est sûr que ça fait trois personnalités un peu sur le même créneau. La concurrence sera un peu rude. Valérie Pécresse a quand même si il y a certains points communs hein, entre ce qu'a dit Éric Ciotti et Valérie Pécresse, mais Valérie Pécresse a un côté plus rassembleuse, plus séduisant pour une partie de l'électorat de droite plus modéré, et donc toute la difficulté à laquelle elle se confrontera, c'est une difficulté classique dans les partis qui organisent des primaires, c'est-à-dire de passer d'une stratégie, d'un discours dirigé vers quelques militants, 130 000 militants, à un discours beaucoup plus rassembleur pour convaincre 50,01% des Français. Voilà, donc elle va se heurter à ça. Mais bon, Valérie Pécresse est une femme tout à fait sérieuse, professionnelle, travailleuse, et avec un discours, un programme qui est déjà relativement bien construit. Donc moi, je fais plutôt le pari qu'elle saura opérer cette mue.
Alors justement, Stéphane Vernet, vous parliez d'un billet sur Barnier. Est-ce que là, le billet, il est sur Valérie Pécresse ?
Oui, clairement. Alors moi, je suis complètement d'accord avec Séverin Husson. Enfin, encore une fois, il faut bien comprendre que la primaire n'est pas une élection comme les autres. Quand vous êtes dans une primaire, je me répète, hein, vous vous adressez à un électorat très particulier, et c'est cet électorat-là qu'il faut convaincre. C'est ce qui explique la surenchère à droite, parce que les candidats se disaient que c'était là-dessus que se ferait, par rapport à cet électorat très particulier, l'élection. Mais Valérie Pécresse, une fois qu'elle aura gagné, elle va radicalement changer de discours, c'est-à-dire qu'elle va opérer le rassemblement. Aujourd'hui, vous avez le choix entre deux lignes. Un Éric Ciotti, en fait, qui propose d'aller chercher à droite de la droite, chasser sur les terres de Marine Le Pen, récupérer les gens qui sont de républicains ou de la droite classique, qui sont partis ou qui ont envie de partir chez Zemmour, lui propose de les récupérer, alors que Valérie Pécresse peut opérer un rassemblement beaucoup plus large, en allant chercher plutôt des gens qui sont partis chez Macron, recrutés au centre droit, de manière plus large. C'est ce qu'ont compris les autres candidats qui ont tout de suite appelé à voter pour elle samedi, parce qu'ils savent que c'est sur elle que la droite a une chance d'être au second tour l'année prochaine. Et en plus, je suis tout à fait d'accord avec Séverin Husson, c'est quelqu'un qui a l'habitude de mener campagne, qui sait faire, et je pense qu'elle peut, elle peut créer la surprise. Parce que maintenant, si vous voulez, à partir de samedi, il n'y aura plus qu'un seul nom au niveau de la droite républicaine classique, et pas trois ou quatre à tester. Donc les sondages vont commencer à changer, le regard des Français va changer. Si elle fait une bonne campagne, elle peut créer une dynamique et elle peut créer la surprise, vraiment, à mon avis. Alors que je pense qu'un Éric Ciotti élu samedi, vous allez avoir, pour moi, ce serait synonyme de crise majeure au sein des Républicains, parce que il va y avoir un certain nombre de gens au sein de ce parti qui, naturellement, si c'est Éric Ciotti qui est désigné, vont partir, vont quitter les Républicains pour aller chez En Marche, via Horizon.
Ou chez Édouard Philippe.
Et voilà, en passant par le SAS Édouard Philippe. Et je peux vous dire que chez Horizon, ils attendent que ça. C'est-à-dire que si Ciotti est désigné, ils savent qu'ils vont récupérer une bonne partie des Républicains, des militants, des sympathisants, des grands élus. Et le danger est là. Alors après, encore une fois, on ne peut pas présumer du résultat, parce que cet électorat est très particulier. Mais tout dépend s'ils votent avec les tripes ou avec la raison. Et à mon avis, je pense que c'est la raison qui l'emportera samedi et que c'est Valérie Pécresse qui va gagner.
Résultat, donc ce week-end, une autre annonce, une autre candidature qui s'est faite de manière tout à fait, on s'y attendait, mais ça s'est fait de manière assez originale. C'est la candidature d'Éric Zemmour avec une posture gaullienne, avec voilà des références à la France d'autrefois. Comment est-ce que vous avez vécu, vous, cette annonce d'Éric Zemmour, qui est donc désormais officiellement candidat à l'élection présidentielle, Séverin Husson?
Bah, écoutez, panache,
ce panache et cette vieille France.
Oui, on l'attendait. Enfin, il fallait que ça arrive. Je pense qu'il était dans un moment où il a été porté tout au long de l'automne par des sondages flatteurs, par une couverture médiatique hors norme. Et depuis 15 jours, sa campagne était en train de patiner. Voilà, il fallait qu'il sorte du bois et qu'il fasse cette candidature. Bon, la posture était gaullienne dans l'image, pas dans le discours. Effectivement, il y avait cet imposant micro et ses livres.
C'était pas un peu caricatural d'ailleurs. C'était pas un peu caricatural.
Moi, je trouve qu'il s'est caricaturé lui-même. Voilà, il y a une espèce d'auto-parodie. Ça relève plus de l'auto-parodie que de l'adresse à la nation, son discours. Bon, je suis pas sûr que s'adresser de cette façon-là aux plus nostalgiques de nos compatriotes, ça suffise à rassembler une majorité de Français. Cela dit, il faudrait pas prendre le phénomène Zemmour à la légère. C'est vrai que voilà, il rencontre l'oreille d'une partie des électeurs. Voilà, sa percée révèle quelque chose de l'état d'esprit des Français, de leurs angoisses face au bouleversement du monde, leur colère face à l'impuissance de l'État. Donc il faut écouter ça au-delà de l'espèce de parodie, je trouve, effectivement, de cette déclaration de candidature.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Stéphane Vernet ?
Oui, bah sur le clip lui-même, moi j'ai trouvé ça ridicule. Enfin voilà, il y a Éric Zemmour qui singe le général de Gaulle, il choisit la bibliothèque de Georges Pompidou comme arrière-plan.
Et toutes les images en arrière-plan pendant tout son discours,
oui,
ces images
pour
donner corps à son.
Alors c'est des images de violence urbaine. C'est voilà, on est dans une vision totalement fantasmée de l'histoire de France. Fantasmé quoi. On n'est pas dans la politique. C'est Orange Mécanique en fait. Hein. Tous les petites séquences de violence, ça ressemble à la séquence du spectateur. Le truc est complètement daté, complètement à côté de la plaque. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça ridicule. On est effectivement dans la caricature. Ce qui m'inquiète, par contre, c'est que je pense qu'il y a un certain nombre de nos concitoyens qui ne voient pas du tout la forfaiture, qui voient pas le côté carton-pâte de ce monsieur et qui prennent les choses au pied de la lettre, qui considèrent qu'ils ont affaire à un intellectuel, qui leur parle d'une France éternelle qui n'a jamais existé que dans les fantasmes d'Éric Zemmour. Tout ça est totalement infondé, mais avec une certaine partie du pays, malheureusement, ça marche. Après, moi, ce qui m'inquiète, si vous voulez, c'est qu'on a quand même affaire au candidat de la guerre civile. C'est un monsieur qui utilise ce registre, qui est en train de fracturer la société de manière terrible. Moi, je pense pas du tout qu'il soit en capacité de remporter la présidentielle l'année prochaine. En attendant, il fait énormément de mal à notre pays. Éric Zemmour, c'est le candidat rêvé pour tous les ennemis de la France. Enfin, les gens qui veulent nous faire du mal, je pense qu'ils trouvent génial que ce mec ait autant d'audience et qu'il arrive à capter l'attention et orienter le débat public. Ça, c'est grave. Alors, et puis pour terminer, ce que je trouve assez génial, c'est qu'il nous explique qu'en fait, la France est victime d'un grand remplacement à l'insu de son plein gré, que le pays de Cosette et de Gavroche s'est transformé avec la complicité malfaisante d'islamo-gauchistes qui désignent, en disant les élites, c'est la faute des élites, des journalistes et des politiques. Éric Zemmour est un monsieur qui a toujours rêvé de faire partie de l'élite. Il a raté l'ENA, parce que, voilà, il a raté le concours, mais il a toujours envie de faire partie de l'élite. C'est un journaliste de profession qui aspire à devenir le président de la République, donc un politicien. Et dans cet ensemble de 9 minutes, je pense qu'il y a matière à alimenter les thèses des futurs psychologues et psychiatres de ce pays pendant des générations. C'est un monument, ce truc. Franchement, regardez-le à nouveau, c'est stupéfiant.
Alors justement, c'est un ancien journaliste, ce sera ma dernière question, puis après on va passer à autre chose, mais c'est un journaliste et il a reproché à un journaliste de lui avoir posé les questions que le journaliste voulait lui poser. En fait, ça m'a étonné finalement qu'il n'accepte pas le jeu des médias de répondre aux questions choisies par le média qui l'interrogeait, c'est-à-dire TF1. Juste le soir de sa candidature. Est-ce que ça vous a surpris, vous, qu'il puisse reprocher à Gilles Boulot de ne pas avoir, comme il l'a dit, fait son boulot, Séverin Husson?
Tout ça a été assez ridicule, c'est-à-dire que Éric Zemmour est suffisamment roué pour savoir que c'est à l'invité d'imposer ses réponses. je veux dire, il a lui-même effectivement interrogé des tas de gens, donc il sait très bien que il a raté son entretien. C'est pas Gilles Boulot qui a raté ses questions, c'est lui qui a raté ses réponses. Alors après, venir le reprocher à Gilles Boulot, c'était assez ridicule. Mais voilà, la stratégie de taper sur les journalistes, elle est connue et elle est vieille comme le monde. Jean-Luc Mélenchon l'a utilisé des tas de fois. Donald Trump l'a utilisé aussi. Voilà, c'est une façon de se victimiser, de mobiliser son camp. C'est je sais pas si c'est efficace.
Il faut une cible. Il faut une cible et on tape sur les journalistes, quoi. C'est facile.
Oui, je pense. Exactement. Et puis dernière petite chose là-dessus, on l'a à nouveau vu son espèce de manque de sang-froid ou sa brutalité, peut-être sa vulgarité, dont il avait déjà fait preuve à Marseille en retournant un geste obscène auprès d'une passante qu'il avait elle-même fait ce geste. Voilà, c'est quelqu'un qui en tout cas visiblement tient pas bien ses nerfs.
Eh bien écoutez, vous venez également réagir ce matin dans Je pense, donc j'agis à ce que disent nos invités. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord, ce serait intéressant aussi de vous entendre au 04 72 38 20 23 par mail également à l'adresse direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis, le Presse Club, Melchior Gormand, Étienne Pépin.
Avec Séverin Husson, rédacteur en chef à La Croix, et Stéphane Vernet, directeur délégué de Ouest France à Paris. Étienne, on en vient à notre deuxième sujet du Presse Club, c'est le point sur la crise sanitaire avec ce menaçant variant Omicron.
Un nouveau conseil de défense aura lieu un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu lundi. C'est une annonce de Jean Castex hier soir pour voir s'il y a lieu de prendre des mesures complémentaires face à la cinquième vague due au variant Delta, une vague jugée particulièrement forte et préoccupante, a estimé Jean Castex, en citant une progression donc de 60% des cas constatés en une semaine, 48 000 nouvelles contaminations en 24 heures et la barre des 2 000 personnes hospitalisées en réanimation a été franchie. Ce qui inquiète aussi le Premier ministre, c'est l'arrivée en France du variant Omicron. La France compte désormais 8 cas officiels, dont 7 en métropole. Est-ce qu'on va devoir imiter nos voisins et imposer la vaccination obligatoire et même combiner un confinement à justement cette vaccination? Ceux qui ne seront pas vaccinés devront rester confinés. Est-ce que c'est ça qui nous attend, selon vous, Séverin Husson?
Alors, je pense qu'il faut quand même bien distinguer deux choses sur ce sujet. C'est à la fois, enfin, c'est d'une part Omicron et d'autre part la vague à laquelle on est confronté. La vague à laquelle on est confronté est une vague de variant Delta. Donc, Omicron est ce qui nous attend dans les mois qui viennent ou les semaines qui viennent. Aujourd'hui, ce contre quoi il faut lutter, c'est le Delta. Et sur le Delta, on dit que le vaccin est efficace. Sur Omicron, on ne sait pas exactement. Il faut attendre encore 15 jours, 3 semaines pour que les scientifiques nous le disent. Mais sur le Delta, on sait qu'il est efficace pour éviter les formes graves. Donc, il faut bien rappeler à la population qu'il faut se vacciner. Alors, se vacciner pour ceux qui ne le sont pas, et puis recourir à la troisième dose pour ceux qui y sont éligibles. Voilà, ça c'est la première chose. Maintenant, est-ce qu'il faut le rendre obligatoire? Bon, moi j'ai pas d'avis tranché. J'écoute les scientifiques. J'ai pas l'impression que les scientifiques disent aujourd'hui que c'est par ça qu'il faut en passer. Donc voilà, je vois que en Allemagne on se dirige vers cette solution. Et puis il y a une deuxième chose qui m'interroge, c'est comment rendre obligatoire un vaccin auprès d'une population adulte? Comment on va aller chercher les gens? C'est-à-dire, de quels moyens on dispose pour l'imposer? Bon, ça, c'est une question que je me pose et à laquelle j'ai pas de réponse.
Stéphane Vernet, sur justement le conditionnement de la liberté, entre guillemets, à la vaccination, qu'est-ce que vous en pensez si on doit regarder un peu ce que font nos voisins? Je pense à l'Allemagne, à l'Autriche, qui conditionnent justement le non-confinement à la vaccination obligatoire. Est-ce que ça vous paraît être une bonne idée aujourd'hui?
Bon, alors, il y a plusieurs choses. Le problème d'abord, je voudrais dire que, effectivement, on est face à une vague du variant Delta, elle est très forte. Moi, en venant, je suis passé devant un centre d'analyse à Alésia, je passe souvent devant. ces derniers temps, il n'y avait plus personne. Là, ce matin, il n'y a une queue pas possible. Ils ont été obligés de rembaucher des agents de sécurité. Il se passe quelque chose dans les hôpitaux. Il y a du monde qui arrive. Enfin, voilà, la vague est là. C'est pas, ça n'a rien à voir avec Omicron. C'est le variant Delta, effectivement. Et la vraie question, c'est de savoir si la stratégie qui a été mise en place par le gouvernement est efficace ou pas. Et c'est maintenant qu'on va le savoir. C'est-à-dire qu'effectivement, on nous dit que le vaccin et vous avez 11 fois moins de chances ou de malchance de faire une forme grave de la maladie si vous êtes vacciné. Aujourd'hui, on a plus de 50 millions de Français qui ont eu la double dose et qui sont doublement vaccinés. Donc on a un taux de couverture de la vaccination qui est pas maximal mais qui est quand même très fort. Et donc a priori, si tout ce qu'on a envisagé et tout ce qui nous a été dit est exact, on devrait pouvoir encaisser plutôt bien cette vague, en tout cas la passer sans accident majeur. Encore une fois, ça on va le savoir assez vite. Les décisions qui ont été prises de modifier en fait les conditions du pass sanitaire et notamment pour obliger les gens à faire les personnes prioritaires à faire leur rappel, à avoir une troisième dose, je pense que ça marche. Vous voyez que les prises de rendez-vous ont été très fortes et les centres de vaccination sont pris d'assaut, y compris, et ça je pense qu'on le dit pas assez, s'il y a embolie dans les centres de vaccination, c'est peut-être parce qu'il y en a moins d'ouverts, certes, mais c'est aussi parce que vous avez pas mal de jeunes et de gens qui viennent pour leur première dose. Pourquoi ? Parce que vous avez plein de gens qui sont dans les 5 à 6 millions de Français qui refusent de se faire vacciner, tous ne sont pas anti-vax. Vous avez aussi beaucoup de gens qui se disent ce truc-là, j'en suis pas sûr, je me méfie, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Et là, ils sont en train de comprendre que ça va pas passer. Et que donc, ils ont attendu, ils ont reculé au maximum et qu'en fait, ils n'ont plus le choix, il faut y aller. Donc, je pense que le taux de couverture vaccinale va encore s'améliorer. Est-ce qu'il faut rendre la vaccination obligatoire ? Je vais répondre à votre question, Étienne. Je pense qu'on prend le sujet par le mauvais bout. Ce qu'on n'a pas bien compris, c'est ça veut dire quoi, rendre la vaccination obligatoire en France ?
Ça veut dire mettre des contraintes, voilà.
Non, alors, rendre la vaccination obligatoire, ça veut dire rendre la vaccination obligatoire. En fait, le problème, c'est que vous rendez la vaccination obligatoire, ça n'a d'effet ou d'incidence que si vous contrôlez et que vous vous assurez vraiment que tout le monde est vacciné. Ce qu'on ne peut pas faire, vous n'allez pas aller chez les gens qui ne veulent pas se vacciner pour s'assurer qu'ils ont bien été vaccinés. En réalité, quand on parle de vaccination obligatoire, il manque un mot, c'est la vaccination obligatoire des enfants. Parce que la vaccination obligatoire, elle marche très bien chez les petits parce que vous conditionnez l'accès à l'école au vaccin. Voilà. Donc, et en réalité, c'est ça qui est en train de se jouer. Donc, est-ce qu'il faut faire vacciner tous les enfants, etc. Moi, je me pose la question. Je ne suis pas médecin. Je suis pas un spécialiste de la vaccination. Je suis pas sûr que le bénéfice de la vaccination pour les tout petits, par rapport au risque, soit vraiment. Enfin, moi, j'ai personnellement, j'ai 4 enfants. Je me pose des questions. J'ai des doutes. Après, l'autre solution, c'est de continuer à durcir les conditions du pass sanitaire, qui pose beaucoup de problèmes en termes de démocratie, de justice et de liberté, mais qui a fait ses preuves jusqu'à maintenant. Parce que quand vous enquiquinez au maximum les gens qui ne sont pas vaccinés, on voit que ça fonctionne. Mmh. Voilà.
J'aimerais qu'on écoute André qui habite à Angers, qui nous appelle au 04 72 38 20 23. Bonjour André. André, est-ce que
oui,
vous êtes
bonjour.
Là?
Bonjour.
Oui, bonjour, on vous écoute.
Oui, je vous entends et je suis très surpris par les réflexions que j'entends, puisque en fait la vaccination est obligatoire à partir du moment où si on ne possède pas le pass sanitaire, on perd tous ses droits de citoyen. Donc c'est rendre l'obligation vaccinale obligatoire par une forme de chantage qui, à mon avis, est scandaleuse. Quant à l'efficacité du vaccin, il faut quand même ouvrir les yeux et se rendre compte qu'on a énormément vacciné, on a une couverture de 80% et que ça ne marche pas. Plus on vaccine et plus l'épidémie se progresse. Les pays qui ont le plus vacciné sont les pays qui ont une épidémie qui se fait de rebond en rebond et qui continue. Donc il faut quand même un peu ouvrir les yeux par rapport à cette soi-disant efficacité de 95%, alors que même les médecins les plus raisonnables estiment qu'elle est peut-être de 30% et qu'il va falloir se revacciner perpétuellement tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Si c'est ça que vous voulez, c'est pas ma façon de voir les choses.
Merci André de vous être exprimé ce matin dans ce Press Club.
Séverin Husson, est-ce que aujourd'hui on peut remettre en question justement l'efficacité du vaccin? On sait que ça, vous l'avez dit, hein, il atténue les formes graves. On peut attraper le virus, mais dans des formes moins graves quand on est vacciné. Mais est-ce que on nous a jamais fait croire quoi que finalement le vaccin nous sauverait à 100% quoi? Qu'est-ce qu'on peut répondre à André aujourd'hui ce matin?
Non, on peut pas remettre en cause l'efficacité du vaccin. Le vaccin, on a toujours dit que le vaccin était efficace pour empêcher de développer des formes graves de la maladie. Et quand on regarde les courbes, quand on superpose les courbes du nombre de cas de Covid et du nombre de morts, on voit qu'effectivement, depuis qu'on est largement vacciné en France, le nombre de morts est bien plus faible au regard du nombre de cas que ce qu'on a connu dans les premières vagues. Donc le vaccin, il est efficace pour éviter de faire des formes graves et de créer des embolies dans les hôpitaux. C'est ça qu'il faut c'est à ça que sert le vaccin et c'est ça qu'il faut éviter. Je veux dire le vrai thermomètre de cette pandémie, c'est le taux d'occupation des lits de réanimation. Donc c'est pas tellement le nombre de cas. Avoir un Covid et être malade, arrêter quelques jours, c'est pas un drame quand on est en bonne santé. Donc il faut pas remettre en cause l'efficacité du vaccin. Mais sur ce que dit André, moi, je comprends ce qu'il dit, c'est-à-dire que aujourd'hui on peut pas dire qu'on a rendu le vaccin obligatoire. En revanche, c'est vrai qu'on a resserré les contraintes. Et notamment depuis qu'on a rendu payant les tests. Effectivement, ça devient compliqué de je veux dire, le pass vaccinal, le pass sanitaire, il est en train de se transformer petit à petit, effectivement, en pass vaccinal. Alors, on peut toujours se faire tester, payer 44 €, se faire tester et accéder au concert auquel on voulait aller. Mais bon, voilà, on peut pas le faire non plus tout le temps. Donc, c'est vrai qu'on est en train de resserrer les contraintes. Et progressivement, ce pass sanitaire se transforme plus ou moins en pass vaccinal. Cela dit, c'est pas pour ça qu'on l'a rendu obligatoire. On peut encore faire des tas de choses, et heureusement, sans se faire vacciner, notamment aller dans les magasins de première nécessité, par exemple.
Alors juste pour conclure sur ce sujet, merci Séverin d'avoir répondu à André. Stéphane Vernet, lundi, à quoi vous attendez de la part de Jean Castex, justement sur cette cinquième vague là, comment vous l'attendez, comment vous l'appréhendez ce moment?
Écoutez, honnêtement, je sais pas ce qu'ils vont annoncer. Je vais pas jouer les manas Mirma. Non, par contre, par rapport à ce qui vient d'être dit et l'interpellation d'André, moi, je comprends qu'il y ait débat et incompréhension autour du vaccin, parce que de fait, non, en réalité, non, on n'a pas toujours dit que le vaccin ne protégeait que des formes graves de la maladie. C'est-à-dire que le discours a évolué. C'est-à-dire, au début, on nous a quand même présenté le vaccin comme la solution miracle qui allait nous sortir du pétrin. Et le discours a évolué au fur et à mesure qu'on découvre les limites aussi du vaccin. Et je pense que l'incompréhension, elle vient du fait que jusqu'alors, quand on parlait de vaccin, on imagine le truc, c'est on a une piqûre et ensuite on est protégé contre une maladie qu'on n'attrapera plus. Voilà. C'est ça le schéma mental qu'on a autour du vaccin. Et là, le fait de voir que ce vaccin-là a ses limites fait que beaucoup de gens disent on nous a menti, on s'est foutu de nous, en fait, ça marche pas du tout, il y a une arnaque. Non, il n'y a pas d'arnaque. Moi, je pense que le vaccin protège vraiment des formes graves de la maladie et que c'est un vaccin d'un genre nouveau qui ne correspond pas à ce qu'on a l'habitude de voir. Mais il fait ses preuves. Et non, dire que il y a des rebonds spectaculaires de la maladie dans les pays les plus vaccinés, je pense que c'est une vision déformée des choses. Il faut juste dire un truc, c'est que les pays qui vaccinent le plus sont aussi les pays les plus riches. Et que dans les pays les plus riches, vous avez les systèmes de santé les plus développés et vous pouvez faire un suivi massif de votre population et savoir précisément où vous en êtes de la progression de l'épidémie, ce qui n'est pas le cas dans les pays qui n'ont pas les mêmes systèmes de santé. Et là où Séverin a complètement raison, c'est pas parce que on découvre beaucoup de cas qu'il y a beaucoup de malades dans les hôpitaux. Encore une fois, c'est là qu'on va voir si ce vaccin et les promesses qui vont autour fonctionne vraiment.
On a pris un peu de retard. J'aimerais juste qu'on écoute Jean-Louis qui est à Montpellier, qui voulait aussi réagir à ce que disait André tout à l'heure à l'antenne. Bonjour Jean-Louis.
Oui, bonjour. Oui, je voudrais réagir par rapport à l'intervention d'un des auditeurs qui est vaccino-sceptique. Moi, je pense que... D'ailleurs, les Français sont en train de s'en rendre compte parce qu'ils sont en train de changer d'attitude, à la marge, mais ils sont en train de changer d'attitude. C'est que si on veut lutter contre le coronavirus, je suis d'accord, le vaccin peut-être ne suffira pas, mais il évite quand même d'avoir des formes graves du coronavirus, donc c'est déjà, pour moi, un progrès. Et puis, il faut bien se dire que c'est pas parce qu'on est vacciné qu'on est couvert. Hein. Si on ne respecte pas le port du masque, la distanciation et le lavage des mains, il faut qu'on combine l'ensemble de ces facteurs pour qu'on ait le meilleur résultat possible.
Mais...
Et voilà, et c'est comme ça que nous serons libres et responsables, parce que je fais appel à la responsabilité de chacun. Il ne faut pas attendre qu'on nous impose les choses, parce que si on refuse d'être sage et d'avoir des comportements préventifs, le coronavirus, lui, ne nous donnera pas le choix.
Merci Jean-Louis de nous avoir appelé. Vous avez toutes et tous des avis différents. Je trouve ça intéressant aussi de vous donner la parole ce matin dans ce Press Club. Vous continuez de nous appeler au 04 72 38 20 23. On est en retard, on va marquer une petite pause. On se retrouve juste après pour parler de l'actualité de l'Église. À tout de suite. 9h39 sur RCF. On écoute un peu de musique avec une chanson de Gaëtan Roussel. On se retrouve juste après en direct pour continuer ce Press Club. À tout de suite.
Rien ne s'efface, tout reprend sa place. Les silences, les boumangs ou la mer prennent tout le temps nécessaire. Tout se rejoint, tout. Mais que va et vient tout son vol. Au lointain, regarde les conifères, prennent tout le temps nécessaire. S'il faut, regarde en arrière ou loin devant le mystère. Une seconde où la vie entière. C'est si beau quand les choses prennent tout le temps. Hier, tu disais on se ressemble. On est fait pour vivre ensemble. Aujourd'hui, mystère. Hier, tu disais on se rassemble. On est fait pour fuir ensemble. Aujourd'hui,
une seconde ou la vie entière, c'était Gaëtan Roussel sur RCF.
Je pense, donc j'agis, le Press Club, Melchior Gormand, Étienne Pépin.
Et toujours avec nos deux invités qui nous accompagnent dans ce Press Club, Séverin Husson, vous êtes rédacteur en chef à La Croix, Stéphane Vernet, vous êtes directeur délégué de Ouest France à Paris. Étienne, troisième sujet de ce Press Club, c'est l'actualité de l'Église.
Le pape François accepte la démission de l'archevêque de Paris. Monseigneur Michel Aupetit avait remis sa charge au pape après des révélations concernant sa gestion brutale de l'archidiocèse et une supposée liaison avec une femme. Il a reconnu un comportement ambigu tout en refusant de parler d'une relation amoureuse ou sexuelle. Monseigneur Aupetit explique dans une courte vidéo qu'il a remis sa charge au pape pour, dit-il, préserver le diocèse de la division que provoque toujours la suspicion et la perte de confiance. Est-ce que on n'a pas manqué de dialogue finalement de part et d'autre dans l'échiquier politique de l'Église? Tout le monde se dit déçu aujourd'hui. Est-ce qu'on n'a pas raté la phase dialogue dans ce sujet, dans cette affaire, dans cette crise, Séverin Husson?
Si, on a sans doute manqué un peu de dialogue. Vous avez raison. C'est vraiment un épilogue douloureux. Je veux dire. D'une triste affaire. L'Église avait vraiment pas besoin de ça. La crise est en fait couvée depuis, parce que dans l'article du Point, il y a un peu de tout. Il y a des choses qui étaient connues sur. Voilà, une gestion supposée ou décrite comme brutale de la part de Monseigneur Aupetit. Et puis il y a l'affaire personnelle intime que vous avez mentionnée. Voilà, donc on mélange, enfin l'article du Point a un peu mélangé tout ça. Ce qui surprend dans l'épisode là, c'est la rapidité de la décision du pape d'avoir accepté cette démission. Comme à son habitude, le Vatican n'a pas donné de raison. Donc moi, je me garderais bien de faire des spéculations pour savoir est-ce que c'est lié à telle ou telle cause. Voilà, je pense que la décision du pape et de Monseigneur Opetit, c'est l'aboutissement douloureux, mais par lequel il fallait sans doute, c'était sans doute l'aboutissement un peu logique, malheureusement.
Il fallait faire vite parce que aussi l'Église est dans une situation de crise bien plus largement que simplement le diocèse de Paris. Je pense évidemment à toutes les affaires qui bousculent l'Église actuellement, en particulier autour donc du rapport de la CIAZ. Est-ce que agir vite, c'était important selon vous, Stéphane Vernet?
Je pense que c'est une lecture tout à fait possible de ce à quoi on assiste. Moi, je ne sais pas quelle est la nature, quels ont été les échanges entre Monseigneur Opetit et le Vatican. Je ne sais pas ce qui motive la décision du pape. Husson l'a très bien dit. Le Vatican ne motive pas ses décisions. Donc, il y a une part. Il y a une part qui nous échappe. On peut se dire aussi qu'effectivement il y a une question d'image qui se joue et qui explique à la fois la décision et la rapidité de la décision, où il y a peut-être d'autres éléments qu'on n'a pas. Je suis incapable de répondre à cette question. En même temps, moi j'écoute ce que dit Monseigneur Opetit, c'est-à-dire que on parle de comportement ambigu, mais est-ce qu'un archevêque ne peut pas entretenir une relation d'amitié? Je ne sais pas. Je trouve ça un peu surprenant parce qu'il nous manque des éléments, et peut-être qu'il y a effectivement d'autres choses qui s'additionnent, notamment dans la gestion qui était évoquée. Encore une fois, on n'a pas tous les éléments, donc je trouve très difficile de porter un regard complet et argumenté sur ce à quoi on assiste.
Séverin Husson, c'est le sujet de l'éditorial du jour de Jérôme Chapuis, le directeur de la rédaction de La Croix. Il évoque aussi justement ce besoin de synodalité, ce besoin de travail clair et laïque ensemble. Justement, est-ce que pour le diocèse de Paris, comme pour l'Église, ça doit être comme une sorte de déclic pour avancer un peu plus main dans la main, quel que soit notre état, notre statut dans l'Église?
Oui, absolument. Cet épisode montre qu'il y a sans doute besoin de revoir un peu la gouvernance de l'Église, peut-être le processus de nomination des évêques. Alors effectivement, la démarche synodale qui est entreprise là vient à point nommé. Ce qu'on peut ajouter aussi, c'est que la décision de nommer Monseigneur Pontier de manière intérimaire,
qui va être administrateur apostolique le temps qu'un nouvel archevêque soit nommé, quoi, voilà, pour être précis. Voilà.
Absolument, merci. C'est sans doute le signal que le Vatican, la personnalité de Monseigneur Pontier est une personnalité plutôt rassembleuse. Il a fait ses preuves dans, évidemment, il est passé par beaucoup de diocèses. Il a montré une personnalité proche du terrain, apaisante. Et voilà, je pense que c'est la volonté, c'est le signal que le Vatican cherche effectivement à calmer les choses. Vous avez dit également aussi que l'Église est très perturbée, très bousculé par la CIAZ, voilà. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ces décisions ont été prises aussi rapidement, et que le Vatican cherche à faire retomber un peu tout ça.
Est-ce que c'est selon vous, Stéphane Vernet, sur cette question justement de la participation des fidèles, c'est ce qui a été beaucoup reproché à Monseigneur Opetit, hein, quel que soit d'ailleurs le positionnement de chacun dans l'Église. On le voit bien, hein, les crises qui ont marqué, c'est la fermeture du centre pastoral Saint-Méry, qui était un lieu très progressiste dans l'Église. Et dans le même temps, on a reproché aussi à Monseigneur Opetit la gestion du licenciement du directeur de Saint-Jean-de-Passy. Là, c'est une frange plus classique dans l'Église catholique. Est-ce que ce besoin de dialogue, ce besoin de synodalité, là, se fait vraiment urgent dans l'Église, selon vous?
Je pense qu'il y a plein de choses qui évoluent, la société change, l'Église gagnerait peut-être aussi à évoluer. Il y a un besoin de démocratie participative qui s'exprime partout. Je pense que les choses sont toujours, à mon avis, sont toujours plus riches, plus intelligentes, plus fructueuses quand elles sont débattues et voilà, c'était pas forcément la pratique pendant longtemps. Encore une fois, est-ce que c'est à l'origine de la décision. Je sais pas, moi j'observe, dans cette histoire, il y a quelque chose qui me frappe, c'est que il me semble que pendant très très longtemps, vous avez des prêtres ou des hommes d'église auxquels on a reproché des choses beaucoup plus graves et qui restaient en poste ou qu'on changeait discrètement d'affectation, mais voilà. Donc, si tout ça est lié en fait à ce à quoi on a assisté autour de la SIAZ, etc., je trouve que faudrait pas non plus tomber d'un excès dans un autre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire encore une fois, après moi je trouve qu'il me manque plein d'éléments et j'ai pas suffisamment de quoi.
Melchior.
Pas de quoi, oui, développer. Un message de Jean-Luc dans le groupe Facebook, je pense, donc j'agis. Une simple question, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi les grands médias nationaux et autres ne retiennent contre Monseigneur Aupetit que sa potentielle relation avec une femme et ne parlent jamais de ce qui est plus le cœur du sujet de sa démission, autrement dit, son autoritarisme. Et Jean-Luc qui fait référence à l'interview ce matin, le grand invité à 8h10, c'était Guy Orange.
Guy Orange, qui est l'ancien président du CCFD Terre Solidaire et qui est membre justement du centre pastoral Saint-Méry. Justement, peut-être Séverin Husson, une question là-dessus. C'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur cette question sur cette liaison supposée avec cette femme. Finalement, on aurait envie de dire c'est pas si grave, quoi.
Pourquoi les médias parlent plus de ce second sujet que du premier, c'est-à-dire plus de cette liaison supposée que des problèmes de gouvernance?
De gouvernance. Oui.
Je ne sais pas si c'est vrai. Regardez comment a été construit l'article du Point. L'article du Point, il y a 80% au début de l'article. Enfin, les 80% de l'article.
C'est sur la gouvernance quand même.
Sont sur la gouvernance. Et il y a deux paragraphes ou trois paragraphes qui terminent le papier.
On est sur cette liaison.
Voilà. Donc eux, ils ont fait plutôt le choix inverse que ce qui est reproché par notre auditeur. Après, le fait nouveau, je veux dire, les problèmes de gouvernance, ils étaient connus et nous, à la Croix, on les a beaucoup traités. La fermeture du centre Saint-Méry, on l'a beaucoup traité. La démission de Cinetti, on l'a beaucoup traité. Enfin, je veux dire, on a traité beaucoup des problèmes de gouvernance dans le journal. Et le fait nouveau qui est apporté par cet article du Point, c'est cette supposé ou le fait nouveau supposé, c'est cette liaison, voilà, et c'est peut-être pour ça que c'est ce qu'on retient aujourd'hui, parce que les médias s'intéressent à ce qui est plus récent. Mais
j'aurais voulu qu'on parle un petit peu aussi dans ce Press Club du voyage du pape à Chypre et en Grèce en deux mots avant de passer à la fin de cette émission. Stéphane Vernet, c'est un voyage à la fois pour l'écuménisme et pour les migrants. Comment vous analysez ce nouveau voyage du pape là, donc au cœur de la Méditerranée? Il est à Chypre actuellement là. Désolé de changer de sujet aussi rapidement, on va devoir y passer très peu de temps.
Moi, je pense que c'est un voyage salutaire, utile. Je crois que c'est il a toujours été très très investi et très sensible à aux problématiques méditerranéennes, au dialogue entre les religions et à la question des migrations. Et il a raison. Je trouve particulièrement important qu'il ait une expression forte sur ces questions et qu'il les manifeste aussi en se rendant sur place. Je trouve que sa vision de l'histoire est une bonne vision. Malheureusement, nous vivons dans un monde qui est entièrement mobilisé par le présent et qui a beaucoup plus de mal aujourd'hui à prendre du recul qu'il y a quelques années, me semble-t-il. Ça, c'est peut-être parce que je vieillis que j'ai ce genre de discours. Mais on voit bien qu'on vit dans des sociétés qui sont obsédées par l'avenir et que la question des migrations est une question fondamentale. Les enjeux sont énormes. C'est-à-dire que là, le pape a totalement raison de rappeler l'importance des migrations dans nos civilisations, dans notre culture, dans notre histoire, et l'humanité qui va avec et qui doit être préservée. On ne peut pas tout refermer, on ne peut pas se calfeutrer et être indifférent au sort d'autrui et à nos frères en humanité. Le problème, c'est que le dérèglement climatique, notamment, et les situations conflictuelles à travers le monde font que la question des migrations prend des proportions énormes et que ça tourne à l'obsession dans nos sociétés, parce qu'on voit bien que les enjeux nous dépassent et on est dans cet entre-deux. Donc Je pense que la parole du pape sur ces questions, elle est essentielle. Et encore une fois, il va y avoir un certain nombre de réglages à trouver assez vite, parce que le problème est réel en même temps.
Dimanche, ce sera un des temps forts de ce voyage justement en Méditerranée. Le pape François ira sur l'île de Lesbos, comme il l'a déjà fait. Il reviendra après à Rome avec des migrants qu'il emmène avec lui et qu'il va lui-même loger au Vatican. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cela, de ce symbole un petit peu fort posé par le pape François, Séverin Husson ?
Oui, je partage tout ce que vient de dire Stéphane Vernet et je trouve très beau que le pape François ajoute à la parole, à cette parole forte sur les migrants, ce que vient de décrire Stéphane Vernet, ajoute à cette parole le geste. Alors c'est un geste symbolique. Il va revenir avec, dit-on, une cinquantaine de personnes. Il avait déjà ramené effectivement plusieurs familles, je sais plus combien, mais en 2016, plusieurs familles au Vatican. On a fait un papier cette semaine où on est allé retrouver l'une de ces personnes qui était revenue avec lui en 2016. Voilà, qui vit en Italie et qui décrit ses nouvelles conditions de vie. Tout ça est très beau et je trouve que voilà, effectivement, ajouter le geste à ces paroles très fortes, ça me semble absolument nécessaire et très beau.
On va suivre ça donc sur RCF dans les prochaines heures, prochains jours.
On arrive à la fin de ce Presse Club, Étienne Pépin. Ça veut dire qu'on arrive également au choix de nos invités.
Exactement, nos deux invités qui ont choisi de nous donner quelques infos feel good, on va le dire comme ça, les informations
positives
pour cette fin d'émission. Stéphane Vernet, de quoi vous vouliez nous parler, vous, d'un bel article que vous avez fait donc dans Ouest France?
Pas moi qui l'ai fait, c'est
la rédaction,
ça s'appelle Samuel Noah, oui, à Rennes, en fait, ça s'appelle du tango sur ordonnance pour envoyer valser la maladie de Parkinson, et je trouve ça très sympa. Il est allé suivre en fait un atelier dans le sud de Rennes où des malades de Parkinson prennent des cours de danse, de tango, et en réalité, en fait, on se rend compte que ça permet de à travers la danse et à travers la pratique du tango, il y a une stimulation des zones du cerveau qui sont endommagées et que l'effet thérapeutique est réel. Vous avez des neurologues qui parlent dans cet article et qui expliquent en fait que l'impact est très positif. Cet atelier existe depuis 3 ans. Vous avez des malades qui témoignent en disant que c'est beaucoup plus, ils ont beaucoup plus de bénéfices, ou ils trouvent ça mieux de faire une heure de tango que d'avoir une longue séance de kiné ou de prendre des médicaments. Et en plus, la bonne nouvelle, c'est que ça marche aussi pour la dépression. Et je trouve que ça, c'est une info sympa que j'avais envie de partager. Il faut danser pour aller mieux.
Danser pour aller mieux. Je connais le programme du week-end de Stéphane Vernet, c'est bien. C'est vrai, ils sont, vous voyez l'hiver arriver, mais sans fourrure.
Oui, alors moi pourtant je suis pas habituellement très sensible ou un grand défenseur de la cause animale, mais j'avais envie de souligner cette initiative du magazine Elle, qui était un magazine absolument important, enfin en France, mais surtout qui a des tas de déclinaisons et des tas d'éditions à l'étranger, et qui a choisi d'exclure la fourrure de toutes ses publications print, web. Voilà, plus de photos de manteaux de fourrure. Donc non seulement dans ces... parce que comme vous savez, c'est les conditions d'élevage de ces animaux, les conditions d'abattage de ces animaux, etc., sont très très décriées. Et il y a tout un mouvement, en particulier chez les jeunes, faire plus attention à tout ça. Et le fait que Elle, qui est une institution évidemment dans le milieu de la mode, prenne cette décision, je trouvais ça assez symbolique. Surtout que cette décision, elle concerne à la fois les papiers qu'ils vont faire, donc plus de photos dans leurs papiers, mais même plus de publicités venues de marques. Ils refuseront les publicités sur lesquelles il y aura sur lesquelles il y aura de la fourrure. Voilà. Donc je trouvais que c'était une évolution de la société plutôt positive.
Plus de fourrure, mais peut-être des vêtements en Gore-Tex. Hein, on ne sait jamais. Ça réchauffe tout aussi bien.
Mais le choix de Séverin Husson. Séverin Husson, justement, gardez la parole. Qu'est-ce qu'on trouve en une de
La Croix
aujourd'hui, Séverin?
On a choisi de titrer sur le pape François qui avait accepté la démission de Monseigneur Opetit. Et on a fait, donc il y a deux pages dans le journal sur ce sujet. Il y a une deuxième double page sur l'arrivée du variant Omicron en France, la France sur le qui-vive, et sur les labos qui se préparent, enfin qui cherchent à comprendre quelles conséquences on peut s'attendre avec ce variant.
Et pour vous, Stéphane Vernet, dans Ouest France?
Alors nous, on a un sujet à la une qui concerne le climat et les maires qui n'attendent pas pour agir. On explique qu'en fait la COP26 à Glasgow a été décevante, mais on fait un petit tour d'horizon, un petit tour du monde des pays ou des villes qui prennent des initiatives très positives en faveur du climat et en montrant que tout n'est pas perdu. Il y a aussi des gens qui agissent sans attendre. C'est plutôt ça aussi, c'est une info feel good, c'est réjouissant.
Voilà, pour se réchauffer, on n'a pas besoin de fourrure de toute façon, puisque avec le réchauffement climatique, on n'aura plus besoin de tellement se réchauffer. Hein. Bon, merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir été avec nous, Séverin Husson de Lacroix et Stéphane Vernet.
Et bravo pour cette première
Séverin Husson. Ah oui, Séverin, c'était sympa de vous avoir. J'espère que vous reviendrez très bientôt dans ce Presse Club.
Avec plaisir, oui.
Merci. Merci à toutes et à tous, merci Melchior.
Merci Tienne Pépin. Qu'est-ce qu'on va faire dans un instant?
Oh là là, je sens qu'on va aller jardiner un petit peu.
On va aller jardiner.
Mais c'est pas vraiment l'époque là, il fait un peu froid, le gazon ne pousse plus,
les plantes sont en état d'léthargie
là.
Il faut préparer son jardin pour l'année 2022. On va en parler dans un instant avec Emmanuelle Fougère, notre jardinière experte du jour. Toujours avec toutes vos questions sur vos jardins, vous n'hésitez pas à venir à l'antenne. On vous attend nombreuses et nombreux au 04 72 38 20 23. Par mail à direct@rcf.fr et bien sûr dans notre groupe Facebook Je pense donc j'agis. À tout de suite.